Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la place que peut jouer la course à pied dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air. C'est parti.
Bienvenue sur le podcast officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Cette émission va vous inspirer, vous motiver et vous aider dans la préparation de votre prochain défi sportif. Bonne écoute.
Soyez les bienvenus sur Objectif Marathon, le podcast officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Je suis ravi de vous accueillir pour ce tout premier épisode un peu spécial puisque nous allons nous interroger sur le rôle que peut jouer le marathon en tant qu'ambassadeur du climat et de la qualité de l'air. En effet, nous avons tout simplement à cœur d'inaugurer cette émission en vous parlant de cet enjeu majeur qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les prochains épisodes, on parlera plus spécifiquement de l'entraînement marathon et on partira même à la rencontre de sportives et sportifs particulièrement inspirants. Mais pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Le premier s'appelle Nicolas Lemonnier. Il est le fondateur de Run Eco Team, l'association qui a séduit Facebook avec les runs écologiques. Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ?
Bah, très bien. Bonjour à tous.
Et notre second invité est le directeur des épreuves grand public en charge de l'organisation du Schneider Electric Marathon de Paris. Il s'agit d'Edouard Cassignol. Edouard, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Comment ça va ?
Eh bien, très bien. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour apporter un témoignage sur ce qui a été fait par le Schneider Electric Marathon de Paris ces dernières années en matière de RSE.
Encore bienvenue à vous deux et on retrouvera en dernière partie d'émission Jean-Marie, un coureur éco-responsable qui nous parlera de son engagement au sein des Green Runners. Messieurs, je vous propose maintenant qu'on entre dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Avec plus de 13 millions de coureurs, le running est l'un des sports les plus populaires en France, une pratique qui est souvent synonyme de liberté et de contact avec la nature. Nicolas, toi, en tant que coureur passionné, est-ce que tu penses que la course à pied a peut-être des responsabilités plus importantes que les autres sport dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
Tout d'abord, déjà 13 millions de coureurs en France, c'est à peu près un Français sur 5. Donc, non seulement par la portée globale, en fait, chaque famille a au moins un coureur, soit au sein de sa famille ou dans un cercle proche. Et donc, du coup, l'impact est très, très résonnant. Et c'est surtout aussi que le terrain de jeu des runners, c'est globalement, directement ou indirectement, la nature. Donc forcément, dès qu'on sort de chez soi, qu'on habite en ville ou en campagne, on est tout de suite stimulé par l'envie de préserver ce terrain de jeu, même quand on est à Paris, parce que forcément la nature, ça se symbolise par les parcs, par les bords de Seine, et après, si on galope un petit peu plus loin, tout de suite, le bois de Vincennes, la région Île-de-France, a plein de terrains de jeu qui sont en pleine nature, et même en province. Donc, on est tout de suite confronté à la réalité, en fait, de l'impact de l'humain sur la nature. Et nous, en tant que coureurs, on peut être les ambassadeurs, on peut être le miroir de ce qui se passe dans la nature par la main de l'homme.
Effectivement. Et d'ailleurs, dans le monde de la course à pied, le marathon, plus particulièrement, est souvent considéré comme étant la distance reine qui fait rêver bon nombre de coureurs et de coureuses. Alors, on compte pas moins de 85 marathons organisés chaque année dans l'Hexagone et près de 115 000 finishers par an. Je pense qu'on peut dire que les Français raffolent de cette distance. Pourtant, c'est aussi l'une des épreuves qui est la plus complexe à organiser, avec le risque de voir l'impact carbone s'envoler sur ce type d'événement si on n'y prête pas une attention toute particulière. Edouard, depuis 2017, le Schneider Electric Marathon de Paris a opéré une véritable transformation pour devenir un acteur référent sur toutes ces questions écologiques et sportives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette volonté de transformation écologique ?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, nous avions, avant 2017, déjà initié pas mal d'actions en matière d'éco-responsabilité. Mais ces actions étaient assez peu structurées et assez peu partagées avec aussi bien les partenaires que les coureurs. Et en tant qu'organisateur, notre volonté était de nous engager plus fortement dans cette transformation écologique et plus largement dans une démarche RSE. Et cette démarche, elle a été accélérée grâce à trois facteurs. Le premier facteur, je dirais, d'accélération, c'est la présence à nos côtés d'un partenaire titre, en l'occurrence Schneider Electric, très engagé en matière de RSE, puisque Schneider Electric a d'ailleurs été récemment couronné lors du dernier forum de Davos comme l'entreprise mondiale la plus responsable. Et donc, Schneider Electric a joué un peu ce rôle d'aiguillon pour nous inciter à accélérer en matière de RSE. Le deuxième facteur d'accélération, c'est sans doute la mairie de Paris, parce qu'on sait tous que la mairie de Paris est très engagée en matière de RSE. Et elle a publié d'ailleurs dès 2016 une charte des événements éco-responsables qui doit être respectée par des organisateurs d'événements aussi bien sportifs que culturels. Et cette charte aborde tous les volets de la RSE, que ce soit les volets environnementaux ou sociétaux. Et puis, il y a un troisième facteur et que connaît bien René Cotim, parce que c'est les coureurs eux-mêmes qui sont de plus en plus sensibles à cette dimension RSE, avec dès 2016 ou 2017 des initiatives comme celle de René Cotim et le ramassage de déchets sur son parcours. Et puis à ces trois facteurs d'accélération, je rajouterai quand même une quatrième dimension, parce que dans le positionnement du Schneider Electric Marathon de Paris, il y a courir dans la plus belle ville du monde. Et on devait absolument mettre en adéquation ce positionnement avec cette promesse. Et il était pour nous inconcevable de concilier plus belle ville du monde avec déchets laissés sur la chaussée.
J'imagine que ça ne doit pas forcément être simple d'opérer une transformation écologique aussi importante. Quelle stratégie vous avez mis en place pour y parvenir ? Et est-ce que 2017, donc ça fait à peu près 4 ans maintenant, ouais, est-ce que vous avez déjà des premiers résultats de ces actions-là ?
Alors, on a commencé à travailler en 2016 et on a construit, d'ailleurs avec l'aide d'un cabinet Deloitte qui était expert en matière de RSE, on a construit un plan d'action progressif sur 3-4 ans et qui aborde les trois volets de la RSE, le volet environnemental, le volet sociétal et puis un troisième volet qu'on appelle le volet héritage, que les anglo-saxons appellent le legacy. Et très concrètement, sur ces trois volets, on s'est écrit 19 chantiers et qui eux-mêmes ont été déclinés en plus d'une centaine d'actions très concrètes. Alors, sur le volet environnemental, le bilan est très positif et j'en donnerai quelques illustrations. La première illustration, c'est sur la gestion des déchets. Et là, les coureurs nous ont véritablement accompagnés dans la réduction et le recyclage de leurs déchets pour qu'on puisse atteindre ensemble l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir zéro déchet sur le sol parisien en fin de course. Et puis l'autre thème important, c'est celui de la compensation carbone, puisque l'objectif là qu'on s'était fixé, c'était qu'en 3 ans, le Schneider Electric Marathon de Paris devienne neutre et compense à 100% son empreinte carbone. Et cet objectif a été atteint en 2019 et le Schneider Electric Marathon de Paris est devenu le premier marathon au monde compensant à 100% son empreinte carbone. Et puis, à ces deux grands objectifs, ou en tout cas réalisations, il y a sur ce volet environnemental pas mal de belles initiatives aussi qui ont été réalisées, notamment avec ASICS sur les t-shirts en matière recyclée à 100%. Il y a eu aussi des initiatives comme celle de ce partenariat avec l'association Africa Run pour récupérer en 2019 plus de 1500 paires de chaussures qui sont ensuite distribuées par Africa Run en Afrique pour donner à ces chaussures une deuxième vie. Et puis il y a aussi la récupération de tous ces textiles qui sont abandonnés par les coureurs dans les sas de départ. Et en 2019, c'est plus de 4 tonnes de textiles qui ont ainsi pu être récupérés et recyclés.
Effectivement, on s'aperçoit que c'est toutes les parties prenantes du monde du sport qui s'engagent, aussi bien les organisateurs de courses, les partenaires, mais aussi les coureurs, puisque ils ne sont pas en reste. Et une récente étude « Être runner en France » réalisée par Kantar TNS estime que 81% des coureurs pensent à leur impact sur l'environnement. C'est un chiffre qui est assez révélateur. Nicolas, quand toi tu choisis de participer à une compétition, j'imagine que tu fais particulièrement attention à l'exigence écologique des organisateurs des courses.
Oui, sur plusieurs aspects, je pense que les coureurs, les trailers, les participants à des compétitions sportives sont sensibles pour la majorité à l'impact écologique de l'organisation et de la course en elle-même. Et ce, à tous les niveaux, parce que dans mon cercle d'amis proches, dans le club où avec lequel je participais à des courses, beaucoup de personnes sont sensibles à ça, non seulement par rapport au trajet, par rapport à l'organisation en elle-même sur la gestion des déchets, sur le recyclage des dossards, sur les lots qui sont donnés avec un aspect éco-responsable, par exemple là comme ASICS sur le t-shirt 100% recyclé. Et donc ça, c'est pour la sphère amateur, mais pour la sphère des sportifs de haut niveau, je pense qu'ils sont aussi sensibles et il y a une nouvelle tendance entre guillemets, même s'il y en a qui étaient déjà sensibles depuis plusieurs années. Par exemple, Xavier Thévenard, qui est un trailer avec une renommée mondiale, qui va faire des courses à proximité dans l'avenir, même déjà, dans un kilométrage assez proche de chez lui pour avoir le minimum d'impact dans ses trajets pour effectuer ses courses. Et je pense que c'est pas qu'une nouvelle tendance, c'est, je pense que ça devient même une exigence de la part des coureurs d'avoir des courses éco-responsables. Et par les initiatives comme le Schneider Electric Marathon de Paris, je trouve que justement mettre en valeur l'éco-responsabilité sur les petites courses régionales et aussi sur des courses qui sont internationales avec une résonance internationale, je trouve ça pertinent et responsable de leur part de travailler là-dessus pour qu'ils aient moins d'impact, mais surtout un impact positif au niveau de la mentalité des gens. Et parce que quand on voit un marathon où l'ensemble du parcours est assez propre et les gens ont une exigence par rapport à ça, même si un coureur n'est pas écolo entre guillemets, ben, s'il va avoir ce type de comportement autour de lui, ben forcément il va avoir après une conscience dont il va s'imprégner chez lui au jour le jour lors de ses phases d'entraînement.
Edouard, c'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez dans cette transformation écologique du marathon? Parce que j'imagine qu'il y a les contraintes logistiques, techniques, il y a aussi les attentes des coureurs qui sont pas forcément tous... Chaque coureur a des demandes particulières et c'est pas forcément aussi évident de pouvoir satisfaire tout le monde. Comment vous arrivez aussi à arbitrer? Je pense que c'est des questions qui doivent être au cœur de vos réflexions quand vous organisez le Schneider Electric Marathon de Paris.
Oui, tout à fait. Alors, parmi les principales difficultés rencontrées, c'est peut-être d'abord une certaine inertie au départ pour faire bouger un événement qui finalement est vieux de plus de 45 ans et de changer les habitudes. Alors, les habitudes, il faut d'abord les changer en interne. Il faut évangéliser pour que chacun en intègre cette dimension RSE dans son métier, dans son quotidien. Et puis, il faut l'adhésion et l'embarquement de toutes les parties prenantes. Ça, c'est absolument crucial. Il faut aussi changer les habitudes des coureurs. Ça, c'est très important parce que tous ne sont pas attentifs ou tous ne sont pas hyper sensibles à la démarche. Et donc, on a profité du salon du running, donc le salon où les marathoniens viennent retirer leur dossard et où ensuite ils visitent un salon de plus de 25 000 mètres carrés. Eh ben, on a profité de ce salon du running pour sensibiliser les coureurs de manière ludique. Notamment à travers le jet de bouteilles plastiques pour leur apprendre le bon geste du jet de la bouteille plastique dans la poubelle. On avait installé des panneaux de basket pour qu'ils s'entraînent à jeter correctement la bouteille plastique par rapport à des cibles. Il faut aussi embarquer tous les partenaires de l'épreuve dans la démarche et pas seulement Schneider Electric ou ASICS. Aujourd'hui, tous les partenaires, l'organisation et l'immense majorité des coureurs sont à bord. Et puis, pour terminer, il faut aussi, et ça c'est très important, mettre en place des indicateurs pertinents pour mesurer les progrès qu'on réalise. Et donc, il faut absolument, dans un premier temps, identifier les bons indicateurs. Alors, ça peut être les tonnes de déchets recyclés, le bilan carbone de l'événement. Mais ensuite, il faut alimenter ces indicateurs en données chiffrées fiables et les suivre dans le temps. Donc voilà les principales difficultés auxquelles on a pu se confronter ces dernières années.
Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à l'un des plus grands enjeux en matière de prévention de la nature et qui concerne nos déchets. En tant que coureur, malheureusement, on constate souvent l'ampleur des dégâts lors de nos entraînements, qui n'est jamais tombé, par exemple, sur une décharge clandestine lors d'une sortie en forêt, ou encore qui n'a jamais constaté les nombreux déchets qui jongent nos rues dans les villes. Malheureusement, tous ces déchets dans la nature ne sont pas sans conséquences. Ils restent parfois très longtemps dans la nature avant d'être biodégradé. Nicolas, tu as fondé il y a quelques années l'association Run Eco Team qui lutte justement contre ce phénomène. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'est venue cette idée d'allier ramassage des déchets avec sortie running?
Alors, tout simplement, en juillet 2015, avec ma femme, on a appris qu'on allait avoir un petit bébé. Et j'avais abandonné au détriment de ma carrière professionnelle le sport. Et donc je me suis mis au sport tout simplement pour maigrir. Je me suis mis au running pour maigrir, pour être un papa entre guillemets modèle. Et au fur et à mesure de mes sorties running, j'ai pu constater pas mal de déchets et j'ai commencé par ramasser un paquet de cigarettes. Et ce jour-là, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de coureurs font, postent leur sortie sur les différents réseaux sociaux, les groupes de running, ma sortie. Et en illustration de ma sortie, j'ai mis ce fameux paquet de cigarettes que j'avais ramassé, avec marqué juste un run, un déchet. Et là, il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires positifs en disant « moi aussi, je fais la même chose à tel endroit, moi j'ai aussi envie de le faire ». Et donc, du coup, j'ai créé le groupe Facebook Run Eco Team le 5 janvier 2016. Ça a pris de l'ampleur. Très rapidement, on est arrivé à 1000 membres en l'espace de 4 mois. Au bout de 7 mois, on était à 1500 membres et on était présent dans 23 pays. On avait des membres dans 23 pays au bout de 7 mois. Et là, une personne de Facebook m'a contacté et m'a dit « ton initiative, elle est superbe. Mark Zuckerberg, cette année, un challenge qui se rapproche un peu du tien, c'est-à-dire de faire un miles par jour. Et toi, à chaque sortie, tu ramasses un déchet. Donc, c'est one-one. Et il s'intéresse à ton initiative. Donc là, j'ai trouvé ça cool. On a échangé avec cette personne-là qui était dans le cercle rapproché de la direction de Facebook avec Mark Zuckerberg. Et ils m'ont proposé, au bout de plusieurs mails, de faire une vidéo sur l'illustration de la naissance de Run Eco Team. Et Facebook est donc venu en France pour faire cette petite vidéo. Et c'est le soir de Noël, un an après la création de l'association, qu'on a pu filmer cette vidéo avec Facebook. Et le soir de Noël, Mark Zuckerberg a posté en marquant pour Run Eco Team que c'était son initiative préférée sur l'histoire de Facebook. Et de là, Mark Zuckerberg, qui a 85 millions de followers, forcément ça a eu un petit impact, on est passé dans pas mal de médias français et étrangers et maintenant on est plus de 100 000 membres, on est présent dans 103 pays dans le monde, on a organisé plus de 3000 événements en 4 ans avec une association constituée de 100% de bénévoles, on organise des Run Eco avec des mairies, avec des entreprises comme team building entre guillemets, avec des écoles. Avec le projet Run Eco Team Éducation qui a 2 ans maintenant, qui est organisé par Patrick, qui est un ambassadeur de longue date maintenant, et on organise des Run Eco dans les écoles, de la maternelle à l'université. Et on travaille avec les professeurs, les instituteurs, sur un projet pédagogique qui illustre le cycle des déchets, sur la diversité de la faune et la flore, et on illustre cet aspect théorique de la pédagogie par un Run Eco Team à l'issue du cycle pédagogique.
C'est assez impressionnant parce que finalement, on se rend compte que d'une action toute simple qu'on peut tous avoir de ramasser un déchet pendant un run, de le poster sur les réseaux sociaux et de sensibiliser ta communauté autour de ces enjeux-là, tu as réussi toi à créer un vrai groupe et mobiliser plein de personnes autour du monde. Mais tu t'es pas arrêté là. Tu as aussi créé une véritable association où tu vas sensibiliser l'opinion publique, les écoles. Donc, tu as vraiment capitalisé sur l'attention médiatique que tu as eue pour aller encore plus loin dans tes actions. Mais j'ai quand même une petite question. Comment est-ce que tu as réussi à attirer l'attention de Mark Zuckerberg, des équipes de Facebook? Parce que j'imagine que des groupes, il en existe des milliers. Donc, est-ce que tu sais comment ils t'ont retrouvé, quoi?
Comme tout site internet, en fait, si vous voulez, chez Facebook, ils ont vu qu'il y avait eu un groupe qui, du jour au lendemain, a été créé. Et 4 mois plus tard, on était présent dans 23 pays. Très simplement, en fait, très souvent, les groupes, en fait, si vous voulez, quand vous créez un groupe, ils progressent normalement en fonction de la géographie où vous vous positionnez. En l'espace de 4 mois, on était présent dans 23 pays et donc, du coup, ils ont dû avoir un petit bouton rouge qui leur a dit, tiens, ce groupe-là, il n'est pas, il n'y a pas 1 million d'abonnés, mais par contre, il y a 1500 abonnés dans 23 pays. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où ils m'ont contacté, ils m'ont dit, vous êtes un parti politique, vous êtes une association, comment vous organisez pour être présente tout de suite dans 23 pays en l'espace de 4 mois? Et donc, du coup, je leur ai répondu tout simplement qu'on était une association qui court, qui ramasse des déchets et qui avait des membres un petit peu partout dans le monde et qu'on n'avait pas de budget parce qu'on fonctionnait avec 0 € à l'époque et on était tous des bénévoles. Et là, ça les a un peu surpris. Et c'est de là qu'est venu ensuite après l'emballement avec Facebook et puis après avec les différentes institutions et professionnels.
J'imagine que ça doit être assez impressionnant de se retrouver à Palo Alto, au siège de Facebook Monde, avec Mark Zuckerberg dans un bureau. Je pense que tu ne te doutais pas, lors de ton run où tu as ramassé ce paquet de cigarettes, que ça allait t'emmener jusqu'à là. Comme quoi, des fois, la vie nous réserve pas mal de surprises.
En gros, bah oui, effectivement, la rencontre avec Mark Zuckerberg, c'était un petit peu impressionnant, mais après, en fait, au bout de 2-3 minutes, c'est quelqu'un de normal, c'est un humain qui court comme les autres et qui.
C'est un runner alors. Tu nous confirmes que Mark Zuckerberg, il fait des petits jogging ou pas?
Il court beaucoup.
On l'a pas encore accueilli sur le Schneider Electric Marathon de Paris, mais ça ne saurait tarder. Ouais, on lui fera parvenir un dossard.
Voilà.
En tout cas, ça prouve bien que la course à pied, c'est fédérateur et que ça intéresse pas seulement les personnalités qui baignent dans le monde du running, mais que ça va bien au-delà. Nicolas, est-ce que tu penses que les coureurs et les coureuses sont prêts et prêtes à changer leur habitude en matière de course à pied?
Ouais. Sur déjà l'achat de leur matériel, il y a beaucoup de marques en fait qui vont vers une tendance à faire par exemple des chaussures de running à partir de déchets plastiques diverses et variées, et donc du coup avoir des chaussures 100% recyclées et recyclables et elles rencontrent un fort succès. Donc déjà, ne serait-ce que dans l'achat de leur matériel, les coureurs sont de plus en plus sensibles à ça pour la grande majorité. Ensuite, après, par rapport à leur comportement, les coureurs vont avoir cette responsabilité de leur terrain de jeu, parce que c'est de toute façon plus plaisant de courir dans un terrain de jeu propre, et donc du coup ils vont en prendre soin dans leur sortie au quotidien. Et ensuite, après, dans leur course, je pense que ils préfèrent avoir une course qui leur impose des règles, comme on peut voir par exemple au triathlon, par exemple, des zones propres, des zones sales, avec des pénalités si jamais on jette des déchets en dehors des zones sales. Je pense qu'ils préfèrent avoir des courses et des organisateurs qui sont très exigeants, et parfois ça peut être un petit peu contraignant d'avoir ce genre de règles-là, une pénalité si jamais on a une zone propre et une zone sale, avoir par exemple plutôt un textile au départ du marathon plutôt qu'un poncho en plastique, et je pense que ça peut être un petit peu contraignant pour certains, ça peut être normal pour d'autres, et je pense que petit à petit, en prenant des mesures comme le fait le Schneider Electric Marathon de Paris, en prenant des mesures sur quelques années et pas de manière radicale du jour au lendemain, sur un processus un petit peu long certes, mais en habituant les gens dans leur conscience au quotidien, dans la participation d'une course, je pense que ça peut être intéressant de faire changer cette tendance-là. Parce que les gens sont ouverts, on le voit dans le débat public, entre guillemets, que l'écologie ne devient plus un acte politique ni un parti politique, mais une manière de vivre. Et la grande tendance, les gens deviennent de plus en plus sensibles. Après, on en entend parler ou on en parle aujourd'hui même. Il y a 10 ans, dans un podcast, on n'en aurait peut-être pas parlé de l'écologie.
Tout à fait d'accord, Nicolas. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que certes, tous les coureurs n'ont pas la même sensibilité, mais que sur les dernières années, les attentes des coureurs en matière d'éco-responsabilité et de RSE en général ont beaucoup progressé. Et d'ailleurs, on vient, nous, de recevoir les résultats d'une enquête qu'on a menée auprès de 2000 coureurs sur leurs attentes, justement, en matière de RSE. Et sans surprise, leurs préoccupations rejoignent les actions qui ont pu être entreprises ces dernières années. Ils sont en forte attente par rapport à la réduction et le recyclage optimum des déchets. Ils ont aussi des attentes importantes en termes d'inclusion, en termes d'égalité homme-femme, en termes d'engagement pour une cause solidaire. Donc il faut que les organisateurs, effectivement, dans le cadre de leur événement, s'engagent auprès d'une cause solidaire. Et puis, sensibles aussi sur la qualité de l'air et donc de l'impact carbone global de l'événement auquel ils participent. Et d'ailleurs, en face de ces attentes toujours plus forte, nous on souhaite de notre côté rendre les coureurs encore plus acteurs dans la démarche, et ça va être notamment le sens du plan d'action qu'on va déployer pour la période 2021-2024.
Nicolas, tu disais quelque chose de très juste, c'est la progressivité. C'est vrai que dans cet enjeu de lutte contre le réchauffement climatique, il faut fédérer en tout cas un maximum de personnes. Et c'est vrai que si on change du jour au lendemain les codes un peu de la course à pied, les habitudes des coureurs, ça peut aussi avoir l'effet inverse et avoir des réfractaires. Est-ce que, Edouard, vous pensez à un plan qui soit quand même plus large sur plusieurs années, justement pour pouvoir avoir cette progressivité et essayer de changer les mentalités au fur et à mesure?
Oui, je pense que la notion de progressivité, elle est très importante pour ne pas imposer des mesures du jour au lendemain, comme le disait Nicolas, pour emporter l'adhésion. Je pense que il y a une part de sensibilisation aux gestes responsables. J'évoquais ces moments ludiques sur le salon du running. Il faut y aller progressivement et sans culpabiliser les coureurs. Je pense que l'adhésion doit se faire sans forcément les pointer du doigt, ou en tout cas pointer du doigt ceux qui n'ont pas encore adopté les bons gestes, et ça se fait naturellement, puisque le jour où un coureur verra un autre coureur à ses côtés jeter son emballage plastique, son gel sur la chaussée, il se retournera en disant je crois que t'as oublié quelque chose. Enfin c'est vraiment comme ça, plus que par des mesures très coercitives ou de sanctions de la part des organisateurs. En tout cas, on voudrait ne pas en venir jusque-là.
L'un des premiers enjeux des grands événements sportifs, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, produites notamment par les déplacements de tous les coureurs et pour l'organisation aussi globale de l'événement. Par exemple, je crois savoir que plus de 30% des participants au marathon du Schneider Electric Marathon de Paris viennent de l'étranger. Il y a 135 nationalités qui sont représentées. Depuis 2 ans, le Schneider Electric Marathon de Paris compense ces émissions de gaz à effet de serre. Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe, Edouard? Comment vous faites pour compenser à 100% l'impact de carbone du marathon?
Alors, en quelques mots, en fait, dès 2017, on a d'abord procédé au calcul du bilan carbone de l'événement, et calcul d'ailleurs qui est effectué par un cabinet indépendant et qui est réactualisé chaque année. Et ce calcul, il intègre bien entendu à la fois l'impact carbone de l'organisation de l'événement lui-même et surtout les déplacements des coureurs pour se rendre sur l'événement et ensuite retourner chez eux. Et ce qu'on a découvert, on l'anticipait un peu, mais c'est que l'organisation de l'événement pèse seulement, j'ai envie de dire, pour 5% des émissions, et les déplacements des coureurs pour se rendre sur l'événement et retourner chez eux pèsent 95% du bilan carbone du Schneider Electric Marathon de Paris. Alors, on a d'abord déployer des efforts pour réduire l'impact de l'organisation. Ça passe par l'utilisation de véhicules électriques, hein, que ce soit les véhicules, les autos ou les motos le jour de la course. Ça passe par la réduction de transports logistiques, par la réduction des emballages plastiques. Mais il a fallu s'attaquer au plus important, c'est-à-dire les déplacements des coureurs. Et là-dessus, c'est vrai que l'ambition du Schneider Electric Marathon de Paris, c'est de conserver son caractère international et de ne pas réserver l'événement aux seuls franciliens. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé avec Schneider Electric de compenser l'impact. Concrètement, on a créé un partenariat avec une fondation qui s'appelle Livelihood, et sélectionné parmi les programmes que proposait cette fondation, un programme en Afrique, un programme au Kenya plus précisément, en cohérence un peu avec la course à pied. Et cette fondation à qui Schneider Electric et ASO versent des fonds offre des fours à bois modernes à des milliers de villageois. Et ces fours à bois au Kenya ont un double effet positif. D'abord, ils limitent la consommation de bois. Il y a une réduction de la consommation de bois de près de 60%. Et donc, ça limite la déforestation. Et puis, l'autre effet positif, c'est que ça évite aussi aux femmes du village de consacrer leur journée entière au ramassage du bois. Et au total, depuis qu'on a lancé cette opération, c'est 60 000 fours qui ont été distribués à près de 300 000 villageois au Kenya. Et l'idée maintenant, c'est sur cette compensation, c'est d'aller encore plus loin et de permettre précisément aux coureurs d'être davantage acteurs dans cette compensation, en les incitant, sans les culpabiliser, j'insiste beaucoup là-dessus, mais en les incitant à prendre conscience de leur empreinte carbone, en utilisant notamment un calculateur qui leur permet de calculer, bah, c'est vrai que l'empreinte carbone n'est pas la même selon qu'on se rend de Lille à Paris en train ou depuis Sydney en avion. Et donc, chaque coureur peut calculer son empreinte carbone et décider d'en compenser tout ou partie. Et ça, c'est véritablement le challenge qu'on s'est fixé pour les années à venir pour que l'événement surcompense son empreinte carbone. Voilà.
Est-ce que c'est pas aussi la responsabilité des coureurs de pas se déplacer à l'autre bout du monde uniquement pour participer à une compétition? Est-ce qu'on peut pas aussi allier, je sais pas, un déplacement professionnel, peut-être un séjour touristique pour mutualiser justement ces déplacements? On peut aussi privilégier des moyens de transport sans émissions de gaz à effet de serre, comme le train, par exemple. Il y a sûrement une réflexion à avoir autour du déplacement vers la compétition sportive.
Mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de coureurs qui s'organisent autour de covoiturage en fait pour ceux qui vont par exemple participer que à la course et faire l'aller-retour. Donc ils s'organisent avec les clubs. Dans les clubs, il y a des covoiturages d'organisés. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux qui organisent des covoiturages et qui disent par exemple ce week-end on va participer au marathon de Paris, qui vient de Nantes, hop, on part tel jour à telle heure. Et on rentre tel jour à telle heure, et ça permet d'avoir le minimum d'impact quand on est 5 dans la voiture plutôt que d'y aller tout seul en voiture. Ensuite, après, moi, personnellement, c'est vrai que je choisis mes courses aussi en fonction de mes lieux de vacances si jamais c'est sur un de mes lieux de vacances. Par exemple, si cet été je vais en Ardèche, hop, je vais voir s'il n'y a pas une course dans le coin. Comme ça, ça me permet non seulement de mutualiser le plaisir et aussi, enfin, les deux plaisirs, vacances et course à pied, mais c'est vrai que ça demande pas beaucoup d'efforts de voir s'il y a une course à proximité de ces lieux de vacances ou déplacement professionnel, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a vraiment une réelle tendance quand on voit les témoignages sur les groupes Facebook, sur les groupes sur les réseaux sociaux, Instagram ou même Twitter, on voit qu'il y a une réelle tendance d'avoir cette démarche-là et de non seulement mutualiser les transports, les coûts de transport, l'impact au niveau du transport et aussi de profiter de ces allées et venues à droite à gauche pour aller grappiller un dossard et puis hop courir une course qui peut être super sympa parce que des fois on va dans des endroits où on n'aurait même pas pensé faire une course et on en profite pour faire une course.
Nicolas, Edouard le rappelait tout à l'heure, c'est important de fédérer, de ne pas culpabiliser les coureurs. Tout le monde est concerné finalement par les enjeux du réchauffement climatique, mais pas pour autant, pas tout le monde se sent concerné par ces enjeux. Certains coureurs, ils comprennent pas forcément pourquoi le sport doit faire autant d'efforts alors qu'il représente finalement un impact minime d'émissions de gaz à effet de serre par rapport par exemple à l'industrie, ce qui est vrai. Effectivement, l'impact du sport est très minime par rapport à l'industrie, même de l'individu est quasiment même, c'est une goutte d'eau. Du coup, est-ce que tu comprends pourquoi ces personnes peuvent être presque agacées, réfractaires à l'idée de changer leur habitude concernant le running? Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Déjà, nous, chez René Coteam, tous les membres, la seule exigence qu'on impose chez René Coteam, c'est surtout ne pas pointer du doigt, ne pas accuser les gens d'avoir un comportement irresponsable au niveau de leur co-responsabilité. Par exemple, quelqu'un qui va jeter un paquet de cigarettes, chez René Coteam, on va plutôt le ramasser et le mettre à la poubelle. La personne nous voit, elle nous dit merci, ou elle nous ignore, peu importe, mais on va pas aller lui dire c'est pas bien. Aller dans l'affrontement, aller pointer du doigt les comportements des autres dans un aspect négatif, je pense pas que ça soit très constructif. Les organisateurs de courses ont plutôt tendance à avoir plus une incitation à l'éco-responsabilité plutôt qu'à faire culpabiliser les coureurs qui n'ont pas cette sensibilité-là. Et je pense que c'est beaucoup plus constructif, non seulement pour les coureurs qui ne sont pas éco-responsables à la base, d'avoir juste des incitations à le faire que de les imposer et en étant radical.
Edouard, est-ce que vous avez vu les mentalités changer depuis 2017, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les conversations de coureurs aussi que vous pouvez capter? Est-ce que vous avez vu une évolution de la culture des coureurs par rapport à ces sujets-là?
Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a eu en tout cas depuis ces 3-4 dernières années, une évolution des mentalités, des coureurs quand même beaucoup plus sensibles à toutes ces problématiques d'environnement, à la qualité de l'air, j'en parlais aussi. On le sent, et à travers, encore une fois, l'enquête qu'on vient de mener, on sent ces attentes, avec demain peut-être des coureurs qui choisiront leur course en fonction du degré d'engagement des organisateurs ou de l'événement sur ces thématiques.
Nicolas, Edouard, au-delà des enjeux écologiques, la course à pied est aussi et surtout un sport de valeur où l'éthique sportive occupe une place très importante. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il aura fallu attendre 1972 pour que, par exemple, les femmes soient officiellement autorisées à prendre le départ d'un marathon. Heureusement, les choses ont évolué depuis et en 2019, 12 484 runneuses sont venues à bout des 42 195 du Schneider Electric Marathon de Paris. Ça représente 27% de femmes, mais ça reste très bas. Il faut savoir qu'on estime que les femmes représentent 49% de l'ensemble des coureurs. Donc, a priori, elles sont encore sous-représentées sur les grandes épreuves comme le marathon. Edouard, que doit-on faire pour qu'il y ait plus de parité sur les lignes de départ des compétitions, et en particulier des marathons qui souvent... ont été très masculins.
Il faut faire beaucoup de choses, mais juste quelques chiffres. Nous avions 25% de femmes sur le marathon en 2017. Nous avons atteint donc 27% de femmes en 2019, et notre ambition, c'est d'atteindre très rapidement le chiffre de 30% de femmes. Mais c'est vrai qu'on a un certain retard, notamment par rapport à d'autres grands marathons, les marathons américains notamment, sur lesquels existe une parité homme-femme déjà depuis plusieurs années. Alors, pour revenir sur le cas du Schneider Electric Marathon de Paris, le premier axe de travail pour féminiser le peloton a été d'abord celui de notre communication. Parce que il fallait faire sauter quelques barrières chez certaines femmes, comme celle de les convaincre qu'elles en étaient capables, finalement, de courir cette distance mythique. Et on a introduit dans notre communication des messages du type « ta tête décide, tes jambes suivront ». Et puis, on a fait évoluer aussi beaucoup de nos visuels en intégrant davantage de femmes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis l'autre volet, c'est qu'on a décidé d'accompagner ces femmes dans leur préparation. Alors on a prévu et on a organisé des séances d'entraînement pour les femmes avec des coachs féminins. On a créé aussi un groupe Facebook qui a reçu un grand succès, un groupe baptisé Paris Marathon Girls, sur lesquels aujourd'hui il y a à peu près 6000 femmes qui échangent entre elles, qui partagent des expériences, qui partagent des astuces, qui se donnent rendez-vous aussi pour des entraînements. Donc c'est le réseau social chez ASO le plus actif que l'on ait. Et puis, parallèlement à ces actions-là, on a souhaité aussi donner plus de visibilité au sport élite féminin. Et c'est la raison pour laquelle, sur la ligne de départ, on a décidé de faire partir les femmes 15 minutes avant les hommes, avec deux effets positifs. Le premier, c'est qu'on a fortement accru la visibilité télévision de la course élite femme en organisant finalement un vrai suspense qui de l'homme ou de la femme allait franchir en premier la ligne d'arrivée. Et donc toutes les caméras ont été braquées sur les femmes qui étaient en tête de course. Et puis donc c'était un homme qui a franchi la ligne d'arrivée en premier en 2018, mais pour la première fois de son histoire, c'est une femme en 2019 qui franchit en premier la ligne d'arrivée. Puis le deuxième effet positif, c'est que femmes et hommes arrivant en même temps, ça a créé la possibilité de retransmettre en direct la cérémonie du podium féminin qui avait l'habitude d'être passé à la trappe auparavant.
Justement, vous parliez des courses élites où vous aviez décalé un petit peu le départ. On sait que la parité homme-femme a se traduit également dans les primes du marathon qui récompense le vainqueur masculin et féminin de l'épreuve. Encore aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'événements sportifs ne récompensent pas de la même manière les vainqueurs masculins et féminins. Les montants des primes sont quelquefois plus importants chez les hommes, alors que les femmes parcourent exactement le même effort et la même discipline. Est-ce que c'est le cas pour le Schneider Electric Marathon?
Oui, c'est le cas depuis de nombreuses années. Les primes sont absolument identiques pour les hommes et les femmes.
Il y a un autre point que j'aimerais aborder avec vous deux en matière de responsabilité des coureurs et des organisateurs de courses. Comment est-ce qu'on peut rendre aussi le marathon plus inclusif en notamment facilitant l'accès aux handisports? Il y a les compétitions évidemment, mais il y a aussi toutes les problématiques qui sont liées à la préparation de la compétition. Je pense notamment aux personnes malvoyantes qui peuvent avoir besoin de guides ou d'accompagnement pour préparer une échéance comme le marathon. Comment est-ce qu'on peut rendre plus inclusif ce grand événement?
Alors pour rendre le marathon plus inclusif, nous on a souhaité favoriser donc le handisport en collaborant étroitement avec les encadrants de la fédération handisport. Et parce qu'il manque souvent de moyens, ils sont parfois obligés de réduire le nombre d'athlètes à encadrer. Et donc on encourage aussi la pratique des jeunes en situation de handicap, en aidant les structures à les accueillir, en offrant chaque année des fauteuils pour pratiquer la course, en accueillant aussi les jeunes sur des distances plus courtes pour effectivement favoriser le début de leur pratique. Et c'est comme ça qu'on a prévu d'organiser les championnats de France de 10 km et de semi pour les handisports. Et puis, donc voilà, tout un tas d'actions. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que être inclusif, c'est pas seulement être inclusif pour moi sur le handicap, parce que je pense qu'on aura une démarche plus inclusive si l'image du marathon évolue, peut-être vers moins de performance et davantage vers cette notion d'accomplissement, en fait, et ce que les anglo-saxons appellent l'achievement. Parce que pour moi, l'inclusion, ça passe aussi par le fait d'offrir à tout coureur le fait d'imaginer, s'imaginer en train de franchir la ligne d'arrivée du marathon. Ça passe aussi pour tout coureur le fait de pouvoir vivre en fait cette émotion très très forte d'un premier marathon. Et c'est d'ailleurs sur le Schneider Electric Marathon de Paris, on a un tiers du peloton qui découvre la distance. Donc l'inclusion, c'est aussi ça, c'est de pouvoir offrir cette possibilité et ce rêve à l'ensemble des coureurs à pied.
C'est très juste et je pense qu'autour de la table, on partage tous ces valeurs. C'est vrai que pas tout le monde se sent forcément légitime à l'idée de courir un marathon et pourtant, tout le monde l'est. Il y a beaucoup de barrières psychologiques à l'entrée de cette course-là et il faut essayer de les faire tomber pour inciter les gens à se dépasser. C'est vraiment accessible à tous. Edouard, pour défendre les valeurs sociales et éco-responsables, vous avez créé justement le manifeste Green Runner. Et d'ailleurs, on va écouter tout à l'heure Jean-Marie qui est un Green Runner. Il va nous partager les motivations qui l'ont incité à rejoindre ce collectif. Et du 8 au 11 avril aura lieu la Green Runners Week. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
Alors oui, effectivement, durant la semaine du 5 au 11 avril, qui sont les dates habituelles du marathon, on va dire réel, on va combiner course à pied et respect de l'environnement. Alors le challenge que l'on va lancer aux participants, c'est de courir pendant cette semaine-là l'équivalent d'un marathon, donc 42 km en cumulé, donc en fractionnant. On peut courir 10 km le lundi, s'arrêter le mardi, recourir 15 km le mercredi, mais voilà, courir l'équivalent d'un marathon, mais aussi de s'engager à adopter un certain nombre de gestes responsables tout au long de cette semaine, et gestes que l'on dévoilera au fur et à mesure, mais comme ceux de réduire au minimum ses déchets et en particulier sa consommation de plastique à usage unique, des gestes comme ceux d'utiliser au maximum les transports en commun et le covoiturage, d'adopter une alimentation responsable avec la consommation de légumes et fruits de saison. Voilà, on va vraiment concilier les deux et à cet effet, on a écrit le manifeste du Green Runner qui liste les engagements du coureur pour d'une part protéger notre environnement et cultiver la solidarité d'autre part. Et là-dessus, enfin, tout le monde est le bienvenu. Être Green Runner, c'est un état d'esprit au quotidien dans la pratique de son sport. Ce manifeste du Green Runner est d'ailleurs consultable sur le site internet du Schneider Electric Marathon de Paris et on peut aussi rejoindre le mouvement via les réseaux sociaux.
Donc pour toutes les auditeurs et auditrices qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux du Schneider Electric Marathon de Paris. Nicolas, si on veut te retrouver, si on veut en savoir un peu plus sur Run Eco Team, comment on fait pour avoir plus d'informations ?
Alors, il existe Run Eco Team sur Instagram, sur Facebook. Et donc ça, c'est pour les groupes principaux. Et puis après, en fait, sur, sur chaque ville où nous sommes présents, c'est-à-dire plus de 120 villes dans le monde et même 103 pays, on a des groupes locaux, donc René Co-Team Lille, René Co-Team Paris, René Co-Team Nantes, René Co-Team Canada, René Co-Team San Francisco, on a des groupes un petit peu partout. Et donc du coup, en fait, vous pouvez vous inscrire sur les réseaux sociaux, sur les groupes principaux et même sur Instagram. Et après, sur les groupes locaux, si vous voulez participer aux événements locaux.
Merci infiniment pour votre temps à tous les deux. On va se laisser en écoutant Jean-Marie Rocard, qui est un grim runner et qui va nous partager ses convictions et pourquoi il a eu envie de s'engager en tant que coureur du quotidien. Nicolas, Edouard, encore merci pour votre temps. Et puis, je vous dis rendez-vous sur la ligne de départ d'un prochain marathon, qui sait ?
À très bientôt, le 17 octobre à Paris pour le Schneider Electric Marathon de Paris.
À bientôt.
Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Rocard, je suis coureur depuis une vingtaine d'années, 30 marathons à mon actif, quelques ultra-trails. Je vais vous présenter le groupe des Schneider Electric Green Runner. Pourquoi je suis venu chez les Green Runner ? Bon, on court tous déjà pour notre bien-être. On partage notre passion, on partage nos paysages et puis nos entraînements. On a une capacité commune à faire le bien autour de nous. Par des engagements très simples, comme par exemple la préservation de notre environnement. Et ça, on sait que c'est l'affaire de tous. Pendant l'exercice de notre passion, qu'est-ce qu'on fait ? Des petits gestes simples. On court, on voit un déchet, on part avec un petit sac plastique et on ramasse les déchets. Voilà, c'est simple. Il faut qu'on prenne soin de notre terrain de jeu. Et puis, dans les Green Runners, on sait que c'est ensemble, ou collectivement ou individuellement, qu'on va pouvoir réussir à quelque chose. L'environnement aussi, qui est quelque chose aussi d'important pour nous. Voilà, si on doit se déplacer pour aller courir quelque part, c'est les baskets, tout simplement. Voilà, si on se donne rendez-vous avec un autre coureur, on se donne rendez-vous à un endroit, mais on y va en courant. Pas de véhicule. Pour les Green Runners, on a instauré aussi le fait de prendre des contenants durables ou biodégradables. Ça passe par avoir une gourde. Une gourde simple, de façon à pas avoir en permanence une bouteille d'eau plastique qu'on va mettre à la poubelle. Et puis, ce qu'on fait dans le groupe des Green Runners, on a des débutants qui arrivent dans le groupe. Donc, on les accueille et puis on essaye de leur faire partager cette valeur-là de façon à ce qu'eux puissent répéter. Et puis, on valorise aussi le sport féminin. Les Green Runneuses qui sont sur le groupe, beaucoup de débutantes, on les accueille aussi. On leur donne tout un tas de conseils pour se mettre à la course à pied, pour faire les entraînements. Je vous engage à venir sur Facebook. Vous allez sur SE Green Runner. Et puis voilà, vous verrez ce que l'on fait au quotidien. Allez, au revoir.
J'espère que cet épisode vous a plu. Rendez-vous du 5 au 11 avril prochain pour la Green Runners Week. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet et les réseaux sociaux du Schneider Electric Marathon de Paris. Chaque pas compte, alors rejoignez le mouvement. Je compte sur vous. À bientôt.